Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi en direct de Roland-Garros. Toute cette semaine, Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi. Avec à la une, le choc aux États-Unis et bien au-delà, après la fusillade au Texas. 19 enfants tués par un tireur de 18 ans. Emmanuel Macron dit partager la douleur du peuple américain. On ira sur place. La réforme des retraites, c'est pour aujourd'hui, pour demain, après-demain, les informations de Jacques Seret du service politique d'Europe 1. L'Assemblée générale des actionnaires de Total Energy, très mouvementée ce matin. Du monde sur la route, évidemment, pour le pont de l'Ascension, des automobilistes et des gendarmes pour les contrôles. On ira sur l'autoroute A63 du côté de Bordeaux, retrouver Stéphane Place. Axel May et Cédric Pioline, ici, à Roland-Garros. On reviendra sur cette ambiance folle lors des sessions nocturnes. Et on parlera du match du jour, Raphaël Nadal face au Français Corentin Moutet. Des services d'urgence sous pression, la réforme des retraites dans le flou. On va en parler avec vous, vous appelez le 3921. Et avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour.
Et avec Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Julien Odoul.
Bonjour.
Et à tout de suite, tous les deux.
Europe 1.
Au moins 21 morts, dont 19 enfants, âgés de 7 à 11 ans, dans une nouvelle fusillade dans une école au Texas. Les faits se sont déroulés dans la ville d'Uvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine. Le tireur est un jeune Américain de 18 ans, Salvador Ramos, originaire de cette ville. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes sur place alors que le débat sur le port d'armes est une nouvelle fois relancé. Les enquêteurs se penchent désormais sur le parcours du tueur.
Oui, pour essayer de comprendre les raisons du passage à l'acte de ce jeune de tout juste 18 ans. Pourquoi a-t-il acheté des armes d'assaut pour son anniversaire? Visait-il tout particulièrement cet établissement scolaire? Malgré une première intervention de la police, il est parvenu à entrer dans l'école où il a ouvert le feu sur les élèves et le personnel avant d'être finalement abattu. Une immense émotion s'est emparée hier soir des États-Unis. Quelques minutes après l'annonce du terrible bilan, le sénateur démocrate Chris Murphy a pris la parole devant ses collègues.
Nulle part ailleurs, les enfants vont à l'école en se disant qu'aujourd'hui, ils vont peut-être se faire tirer dessus. C'est un choix. C'est notre choix de laisser cela continuer. Que faisons-nous ?
Chris Murphy, c'est une figure pour le contrôle des armes. Élu du Connecticut, il a côtoyé les familles des victimes de Sandy Hook, école théâtre de la pire fusillade en milieu scolaire. 27 morts, dont 20 enfants il y a 10 ans. Côté démocrate, il y a donc un mélange de colère et d'impuissance. Joe Biden appelle à faire face au lobby des armes. Mais pourquoi réussirait-il là où Barack Obama a échoué en 2012, justement après Sandy Hook ? Toute nouvelle régulation semble improbable. Au Congrès, les démocrates auraient besoin de voix républicaines. Un parti d'opposition aujourd'hui arc-bouté sur la défense du deuxième amendement et sur le droit de porter une arme.
Merci beaucoup Alexis Guilleux. Je voulais également vous faire écouter cette colère, ce cri de colère, celui de l'entraîneur de l'équipe de basket de San Francisco.
Il faut faire quelque chose. Je suis fatigué, tellement fatigué de présenter mes condoléances à ces familles dévastées. Je suis désolé, je suis fatigué de ces silences. Assez aux 50 sénateurs qui refusent encore aujourd'hui de voter contre le lobby des armes. Je vous demande, à tous ces sénateurs qui refusent de faire quoi que ce soit contre les fusillades dans les écoles, est-ce que vous allez continuer à privilégier votre désir de pouvoir à la vie d'enfants ?
Des réactions extrêmement fortes comme celle-ci, des réactions partout dans le monde, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons, écrit Emmanuel Macron sur Twitter. Le pape François dit avoir le cœur brisé, il condamne le commerce incontrôlé des armes. En France, à présent, c'est l'une des réformes qui va susciter le plus de débats au cours des prochains mois. Le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, peut-être 64. Proposition forte de la dernière campagne électorale d'Emmanuel Macron, campagne pour la présidentielle. Et depuis sa réélection, eh bien, le président de la République se fait plutôt discret sur ce sujet. Jacques Serret est avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Il y a une raison à cela. Emmanuel Macron ne veut pas lancer le grand chantier dans l'immédiat.
Oui, le chef de l'État veut laisser passer l'été. Il attend la rentrée de septembre pour s'atteler à cette réforme. Ce n'est plus une priorité. Lors du premier Conseil des ministres lundi, il n'en a d'ailleurs même pas été question. Pas un mot sur l'âge de départ à la retraite. En haut de la pile des dossiers pour le début de son quinquennat, le président place l'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. L'heure est à la défense du pouvoir d'achat des Français. Car si Emmanuel Macron a capitalisé sur le projet de cette réforme pour aller chercher les électeurs de droite durant la présidentielle, il sait que remettre cette question sur la table maintenant jouerait en sa défaveur alors que les législatives approchent et que la gauche part unie dans cette bataille. Ce dossier explosif pousse Emmanuel Macron à ne pas trop se mouiller à ce stade. La mission a été confiée à Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail qui a succédé à Elisabeth Borne à ce poste. C'est cet ex-membre du Parti Socialiste qui entamera les discussions avec les partenaires sociaux. Le texte devrait être examiné au Parlement à l'automne pour une entrée en vigueur début 2023, mais avec quel contenu ? L'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem, prévient Matignon, comme s'il s'agissait déjà pour le gouvernement de jouer l'apaisement.
Jacques Serret, merci Jacques. Et ce matin, au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a estimé que le président de la République avait besoin d'une majorité forte aux législatives avant de lancer cette réforme. Il estime qu'il faudra tout de même s'y atteler dans les 3 prochaines années. Des manifestations devant la salle Pleyel à Paris. C'est là-bas que se tient l'Assemblée Générale de Total Énergie. Vous entendez des militants écologistes qui ont cherché à perturber cette réunion. Ils ont réussi puisque cette réunion des actionnaires a débuté devant une salle quasi vide. L'objectif des manifestants, forcer les actionnaires de Total Energy à revoir à la hausse les ambitions du plan climat de l'entreprise. Mais en interne également, quelques actionnaires du géant pétrolier avaient déjà prévu de s'opposer à ce plan qu'ils jugent trop flou, Louise Salé.
Ils ne sont qu'une poignée, minoritaire mais déterminée, à refuser ce plan climat du géant pétrolier français. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est d'abord que 20% des investissements de Total soient dédiés à l'exploration de nouveaux gisements. Parmi ces actionnaires, le Crédit Mutuel, dont Caroline Lemoy-Ligou est directrice du développement durable.
Total arrête d'explorer des ressources pétrolières dans les sables bitumineux. C'est une excellente nouvelle pour le climat. Mais ils continuent de chercher de nouvelles sources de pétrole et gaz, et ça, ce n'est pas conforme aux accords de la COP21.
La société de gestion en patrimoine Mescar fait également partie de la fronde parce que les objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour 2030 de Total ne sont pas assez détaillés. Aurélie Baudouin est directrice générale déléguée.
Une entreprise comme Total Energy, une part de son empreinte carbone est associée à la consommation des produits énergétiques qui sont vendus par l'entreprise. Ce que nous souhaitons obtenir maintenant, ce sont des engagements qui portent sur les émissions indirectes, sur l'ensemble des activités du groupe au niveau mondial.
Ce n'est pas la première fois que des actionnaires de Total montent au créneau pour des raisons climatiques. Cela n'avait pas abouti l'an dernier, leur poids était trop faible. Ils sont un peu plus nombreux en 2022, mais surtout conscients que leur geste fera des émules.
Les personnes fragiles vont-elles devoir repasser par la case vaccination contre le Covid à l'automne prochain ? C'est en tout cas ce que recommande, c'est dans une recommandation publiée ce matin, ce que recommande la Haute Autorité de Santé. L'instance cite les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées ainsi que leurs proches. Il est midi 9, restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. On va parler dans un instant de beaucoup de choses. Déjà, la sortie de Top Gun, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? On en parle beaucoup. Ça y est, c'est sorti aujourd'hui. On était à la sortie d'un cinéma parisien. Et puis on ira sur la route. Il y a beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Et il y a aussi des gendarmes. On va assister à un contrôle sur l'A63 près du bassin d'Arcachon. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi, midi 11, en direct de Roland Garros. Vous nous écoutez peut-être ce mercredi midi en pensant déjà au week-end. Et oui, vous êtes nombreux à faire le pont de l'Ascension, un week-end de 4 jours synonyme d'envie d'ailleurs. Et ça se voit sur les routes bison futé, voie rouge sur toute la France, dans le sens des départs aujourd'hui et demain. Ça sera d'ailleurs du noir dimanche pour les retours. Et puis, en plus, il y a du trafic. Et plus il y a du trafic, plus les forces de l'ordre sont mobilisées. Stéphane Place, on vous retrouve sur l'autoroute A63 en direction du bassin d'Arcachon. Les contrôles routiers se sont enchaînés toute la matinée. Hein.
Oui, ici sur l'aire de repos de Sestas, la police enchaîne les contrôles. L'autoroute A63 en direction du bassin d'Arcachon et de la frontière espagnole est très chargée ce matin. Beaucoup de familles qui veulent profiter évidemment de ce week-end prolongé et de nombreux routiers. Alors pas question pour les CRS de laisser passer les comportements dangereux.
Vous avez vu la vitesse à laquelle vous avez roulé sur la boîte d'accès ? Vous n'avez pas l'impression de rouler un peu vite ? La boîte d'accès, c'est ce qui permet d'accéder à l'autoroute. Vous êtes pressé ? Vous avez vu, c'est chargé ?
C'est avant tout pour la sécurité, je pense, des automobilistes. C'est vrai qu'on n'a qu'une vie et... Bon, des fois, il vaut mieux être en retard dans celle-ci qu'en avance dans l'autre.
La vitesse, mais pas seulement. Le capitaine Lionel Vigouroux de la CRS autoroutière Aquitaine.
Les comportements un peu dangereux, les changements de direction sans s'assurer du danger, les vitesses excessives, les non-respect de distance de sécurité. Et bien sûr, après, tout ce qui va être les conduites addictives, donc alcoolémie et usage de stupéfiants. C'est un week-end, surtout là avec le pont, un week-end très long. C'est chargé sur les autoroutes et du coup, il y a plus de risques d'accident, donc plus de travail pour nous.
Et pas moins de 20 dispositifs de contrôle comme celui-ci vont être déployés dans tout le secteur de la région bordelaise par les CRS jusqu'à dimanche.
Voilà, prudence, prudence si vous prenez la route. Déjà prudence pour vous-même, pour les autres et pour éviter l'amende avec les gendarmes. C'est la sortie du jour au cinéma, le deuxième volet de Top Gun Maverick, film européen, le show de Tom Cruise au Festival de Cannes il y a quelques jours. Vous avez peut-être donné envie d'aller voir le film en salle. On retrouve Guillaume Dominguez en direct devant une salle parisienne, salle de cinéma parisienne. Vous avez une spectatrice à côté de vous, qu'est-ce qu'elle en a pensé, Guillaume?
Oui, bonjour Romain. Alors ici, pas de patrouille de France hein, au-dessus du quartier de Bercy pour l'une des premières séances du film. Mais vous l'avez dit, des spectateurs conquis. Je suis avec Michel. Alors Michel, comment est-ce que vous avez trouvé ce deuxième volet de Top Gun?
Ah, j'ai adoré. Je suis une grande fan de l'aviation et la performance de Tom Cruise est juste incroyable.
Alors justement, vous pouvez nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce film? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Ben, tous les ballets aériens, toutes les performances, quoi. Je suis très admirative.
Justement, Tom Cruise, 36 ans après la sortie du premier film, il est toujours aussi convaincant?
Ah, toujours aussi convaincant, toujours aussi beau. Et voilà, et je suis une fan, quoi.
Alors ici, à l'UGC de Bercy, il y a une séance qui est programmée toutes les 30 minutes, tout au long de la journée. Merci beaucoup, Michel.
Je vous en prie, plaisir.
Guillaume Dominguez, merci Guillaume, voilà en direct devant une salle parisienne. Allez, Roland Garros tout de suite.
Roland Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Le début des matchs du second tour, du deuxième tour à Roland-Garros. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Il y a beaucoup de monde à Roland-Garros. Axel May, un Français, est en train de défier le roi du service, l'Américain John Isner.
Oui, le géant américain, 2,08 m, rendez-vous compte, John Isner. Il est encore 26e mondial et face à lui, le jeune Grégoire Barrère, 210e mondial. Il n'est jamais allé plus loin qu'un deuxième tour à Roland-Garros. Alors évidemment, Barrère, il espère battre Isner, mais pour l'instant c'est mal parti. Il a perdu le premier set, il est mené dans le deuxième set. Et pour la petite anecdote, Isner au tour précédent a battu un autre Français, Quentin Alice, qui est un grand ami de Grégoire Barrère. Donc Isner Barrère c'est en ce moment. Et puis ça c'est sur le cours Simone Mathieu, et vient de débuter sur le cours central Elisa Jacquemot, la Française, face à la solide Allemande Angélique Kerber. Elle a perdu, elle s'est fait breaker d'entrée de jeu.
Merci Axel May. Cédric Pioline, bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
Alors le public a été servi en émotion hier, hein, entre le dernier match de la carrière de Joe Wilfried Tsonga et la belle qualification peu après de Gilles Simon.
Oui, et puis même on peut rajouter la victoire d'Hugo Gaston sur le Suzanne Lenglen. Oui. C'est vrai qu'il y a eu plein de belles choses, d'émotions. Je crois que c'est ce qu'on recherche aussi, est-ce que les gens recherchent. J'étais évidemment particulièrement ému par Joe sur le cours central, avec d'abord un match formidable. Il a tenu la dragée haute au 8e mondial pendant 4-7 avant que, j'ai envie de dire, sur un petit clin d'œil, son corps lâche, comme ça a été souvent le cas durant sa carrière, pour son dernier match à Roland-Garros. Et puis il y a eu une cérémonie formidable derrière.
Parmi les matchs aujourd'hui, Cédric, la belle histoire de Corentin Moutet qui affronte son idole de jeunesse, Raphaël Nadal. Oui. Nadal-Moutet ce soir.
Nadal-Moutet, alors un duel de gauchers, évidemment sur le papier c'est très déséquilibré. J'espère pour Corentin qu'il va justement oublier un petit peu le contexte, l'adversaire, et qu'il va jouer son jeu, qu'il ne soit pas trop spectateur pour faire son match. Et puis pourquoi pas créer l'exploit, même si ils ont été très peu nombreux ici à Roland-Garros à pouvoir dire qu'ils ont battu Raphaël Nadal.
Cédric Pioline, merci beaucoup Cédric. On va le regarder hein, ce match Nadal-Moutet. Axel May me racontait que Corentin Moutet avait expliqué que gamin, il dormait avec le même t-shirt que Nadal, tellement Nadal était
son... Oui, ça crée des vocations, c'est sûr. Donc en attendant, moi cet après-midi, je vais aller voir Top Gun et puis je reviendrai pour ce soir pour le match de Nadal et Moutet.
Joli programme. À demain Cédric.
Merci
Cédric
à vous.
Pioline, tous les jours dans Europe Midi. La météo tout de suite, Anissa Haddadi, avec de plus en plus de nuages cet après-midi, Anissa.
Oui, c'est dans le nord-ouest, particulièrement entre les Pays de la Loire et la Normandie, que le ciel va se charger de plus en plus cet après-midi, avec même des petites pluies en bord de Manche. Et puis, comme ce matin, les nuages s'accrochent sur l'extrême sud, entre les Pyrénées et les Alpes-Maritimes, même jusqu'à la Côte d'Azur, où on devra avoir les premières gouttes du Festival de Cannes. Partout ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec des températures de saison. Hein. 16 degrés pour Cherbourg, 17 à Brest, 19 à La Rochelle, Lille et Biarritz. C'est comme hier, quasiment. 21 degrés pour Paris, Bordeaux, 24 à Lyon, 26 pour Bastia et 28 la maximale prévue pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 18, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler de la crise à l'hôpital. Est-ce qu'il faut mieux rémunérer les médecins? Est-ce qu'il faut les obliger à faire des gardes? On en parle avec vous au 39-21. On va parler également de la réforme des retraites, faut-il vraiment la faire? Est-ce qu'il y a urgence ou pas? On va en débattre avec vous et avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National. A tout de suite.
Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21, 50 centimes la minute.